Nous ferons quatre lectures, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 14. Nous sommes dans la nuit où Jésus a été arrêté, puis crucifié le lendemain. Jean, chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Retenez le verset 15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10 verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et enfin, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 18. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Le verset de l'Épître aux Hébreux nous invite à fixer les regards sur Jésus pour le prendre, pour le considérer et pour le prendre comme modèle. Les trois autres textes nous présentent Jésus comme un exemple ou comme un modèle. Lorsque Jésus a lavé les pieds des apôtres, après il leur a dit ceci: « Je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait ». Et je précise ici, ce n'est pas l'action qui est à imiter, mais c'est l'attitude de cœur qui est à imiter. Dans 1 Corinthiens 10, nous sommes invités à imiter Jésus. C'est le mot « mimétès », donc qui a donné « mimer », mais on ne veut pas mimer Jésus, mais l'imiter. Ce verset est à relier avec ce qui précède, et notamment cette déclaration « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et puis, dans le texte des Pierres, il nous est dit qu'il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et le mot ici, traduit par exemple, on le trouve qu'ici, il signifie une copie écrite incluant toutes les lettres de l'alphabet données aux débutants comme une aide pour apprendre à les tracer. Il y a différents mots pour exprimer la notion de modèle, mais tous se rejoignent, modèle ou exemple. Je voudrais partager plusieurs réflexions qui vont nous aider à prendre Jésus pour modèle. Et la première réflexion, elle est importante. Jésus, avant d'être notre modèle, il doit être notre sauveur. C'est une évidence pour beaucoup, mais c'est bien de le rappeler. Pourquoi ? Parce que, avant tout, vous avez besoin d'un sauveur. Vous n'avez pas forcément besoin d'un modèle, si je peux parler comme ça, mais vous avez absolument besoin d'un sauveur. Tout être humain a besoin d'avoir Jésus comme sauveur. Vous savez que dans l'Église traditionnelle, on a tendance à présenter les souffrances de Jésus comme un modèle. On le dit un petit peu comme ça, ou on le ressent comme ça. Regardez Jésus comment il a souffert, acceptez de souffrir. Mais ce n'est pas ça, la mort de Jésus sur la croix. Christ est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ça, la prédication de la croix. Ce n'est pas prêcher les souffrances de Jésus comme un exemple ou comme un modèle. Mais c'est prêcher que par sa mort sur la croix, le pécheur peut être sauvé. Et si pour la plupart d'entre nous, nous pouvons dire « Christ nous a sauvés », c'est parce qu'un jour on a saisi ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. L'ordre est important. Il est d'abord notre sauveur, avant de pouvoir être notre modèle. Parce que si Jésus n'est pas votre sauveur, il devient finalement un modèle inaccessible, un modèle impossible, un modèle inacceptable. Vous ne le supporterez pas. Quand quelqu'un qui est né de nouveau lit le sermon sur la montagne, il se dit quoi ? Il se dit « Ouf, Jésus met la barre haut !» Mais en même temps, il y a quelque chose en lui qui dit « C'est ça, c'est vrai !» Mais celui qui n'a pas Jésus comme sauveur, quand il lit le sermon sur la montagne, il dit quoi ? Il dit « C'est pas possible ça, c'est inacceptable, je n'en veux pas !» Il ne le supporte pas, il se sent complètement dans l'incapacité de le vivre. C'est important, c'est indispensable de comprendre cela. Il faut prendre Jésus comme sauveur et ensuite le prendre comme modèle. Et si on ne le fait pas, on aura le sentiment que la vie chrétienne, c'est quelque chose d'impossible ou de quelque chose de dur à vivre, ce qui n'est pas le cas. Ma deuxième réflexion, c'est que Jésus, en se faisant homme, nous a donné un modèle. Dans quel but Jésus s'est fait homme ? Dieu s'est fait homme avec trois objectifs. Il s'est fait homme d'abord pour révéler Dieu. Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Billy Graham se promenait un jour avec son fils qui était petit. Et à un moment donné, son fils lui a dit « Dis papa ». Alors, quand les enfants commencent à parler comme ça, il faut ouvrir toutes les fenêtres. Et il a posé cette question ô combien pertinente. Pourquoi Dieu s'est fait homme ? Alors qu'il réfléchissait sur le chemin, en se promenant, il a vu une fourmilière. Et là, l'idée lui est venue. Il a été inspiré dans sa réponse et il a dit, tu vois, si je voulais parler à ces fourmis, quel serait le meilleur moyen ? Le meilleur moyen serait de me faire une fourmi, pour faire passer le message. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Pour se faire entendre et pour nous montrer Dieu, il s'est mis à notre taille. Si Dieu venait tel qu'il est, on n'arriverait pas à le voir. On ne le comprendrait pas et on ne le supporterait pas. Rappelez-vous, lorsque Dieu intervient sur le mont Sinaï et qu'il donne la loi à Moïse, le peuple a dit quoi ? Parle à Moïse, mais nous on n'en veut pas. Il était terrifié. Alors Jésus est venu pour nous montrer, il nous fait découvrir Dieu dans son caractère, dans sa volonté. Jésus est celui qui révèle Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, mais il nous évite de nous faire une fausse image, un Dieu selon notre image ou un Dieu selon notre imagination, pour reprendre ce qui a été partagé mardi soir. Dieu s'est fait homme aussi bien évidemment afin de nous sauver. Dès qu'il est né, il savait, rappelez-vous ce que les anges disent, il vous est né un sauveur, dès le départ, dès la naissance, on sait pourquoi Jésus est venu. Et finalement, on peut se réjouir de la naissance de Jésus que si on a compris dans quel but il est venu et qu'on a compris et saisi le message de la croix. Et puis, il y a un troisième objectif à l'incarnation de Jésus. C'est que Dieu s'est fait homme pour nous montrer une manière de vivre. Jésus a dit à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Juste après. Mais comprenons que ce n'est pas seulement ce qu'il a fait sur le moment. Finalement, ce sont les 3 années passées avec lui où ils ont eu l'exemple. Pendant ces 3 années passées avec Jésus, ils l'ont côtoyé. Jésus a fait ce qui se faisait à l'époque. De temps en temps, un rabbi prenait des disciples avec lui et il les enseignait. Il passait beaucoup de temps avec lui pour leur communiquer son enseignement. C'est ce que Jésus a fait. Et pendant ces 3 ans, ils ont appris au contact de Jésus. Ils ont appris en l'écoutant, mais ils ont appris en l'observant. Et ils se sont fait une image du caractère de Dieu. Ils ont compris. Et ils ont pu aussi vivre, comprendre comment c'est possible de vivre. Jésus s'est fait homme afin de nous montrer une manière de vivre. Il y a quelque temps, quelqu'un me posait la question, pourquoi 4 évangiles ? Eh bien déjà parce que ça nous donne de pouvoir bien considérer le modèle. Un évangile, c'est bien, mais en lisant 4 évangiles, on peut vraiment fixer les yeux sur le modèle qui est Jésus. Et on peut s'identifier à lui. Ma 3e réflexion. Jésus n'est pas un modèle sur toute la ligne. Je vais m'expliquer. Et là, je peux surprendre un peu, mais il y a des choses chez Jésus qui ne sont pas imitables et que nous ne pouvons pas reproduire. Par exemple, Jésus ne s'est pas marié. Même s'il y en a qui veulent absolument le marier avec Marie de Magdala parce qu'ils veulent le salir, c'est faux. Jésus ne s'est pas marié. Il y a même un texte qui le montre clairement à un moment donné. Quand il parle d'eunuques qui se sont faits pour le royaume de Dieu, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Jésus ne travaillait pas au sens habituel. Il mêlait plutôt à un fonctionnement à l'oriental. Il n'avait quasiment rien dans ses poches. À un moment donné, il va se présenter un péage. Il n'avait pas de quoi payer le péage, mais il l'a payé quand même. Mais vous voyez, c'est un fonctionnement qui... Que penser aujourd'hui d'un jeune qui part, tiens, je vais faire comme Jésus, je pars à l'aventure, je vais évangéliser. Ça va devenir quoi? Pas un évangéliste, mais un pique-assiette. Quelqu'un qui va vivre au crochet des autres. Mais heureusement, c'est quand même équilibré par d'autres textes. Ce matin, je lisais dans 1 Thessaloniciens qu'il est dit que nous devons mettre notre honneur à travailler. Et dans la version Semeur, c'est dit afin d'être respecté par les gens du dehors. C'est intéressant. Mais Jésus n'est pas un modèle absolu dans ce sens-là, parce qu'il avait d'abord une mission particulière. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et c'est pourquoi il n'avait pas le temps de se marier, c'est pourquoi il n'avait pas un chez-soi. Un jour, Jésus a dit que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça ne veut pas dire que Jésus dormait tout le temps dehors, mais ça veut dire qu'il n'avait pas de chez lui, finalement, parce que pendant les 3 années, il se concentrait sur son objectif. Jésus est venu aussi dans un contexte particulier, ce qui fait qu'il n'est pas toujours recopiable sur toute la ligne. Dans un contexte, je dis, dans une culture orientale et dans un contexte juif, Jésus était circoncis. Mais dans les épîtres, c'est clair, la circoncision, c'est niette. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de modes. Il y en a qui vous préconisent ça dans les milieux évangéliques. Jésus pratiquait le sabbat et toutes sortes de rites juifs, mais il était juif. Il est dans un contexte. Si Jésus ne les avait pas respectés, ces rites-là, il aurait été discrédité. Il n'aurait pas pu faire passer son message. Il n'est pas arrivé avec une pancarte « Fils de Dieu, je viens du ciel ». Mais il a fallu du temps. Il a fallu qu'au travers de l'homme, parfait, à un moment on découvre Jésus et qu'on ait la conviction qu'il est le Dieu manifesté en chair. Mais je dis ça, c'est important parce que des fois on entend que Jésus ne mangeait pas de ceci ou il faisait comme ça, donc il faut faire comme ça. On est dans une progression. Jésus a commencé à lever le voile, il l'a même déchiré. Et les apôtres ont fini de le faire tomber dans les épîtres. Il y a une progression et il y a un sens. Il ne faut pas prendre dans l'autre sens. Autrement, on fait vite des écarts. Et puis, Jésus est un modèle, je dirais, difficile parce qu'il est unique. Jésus est homme et il est Dieu. Au départ, dans ma conversion, j'essayais de voir ce qu'était de l'homme et ce qu'était du Dieu. Et de temps en temps, j'essayais de découper, mais ça, ce n'est pas possible. Parce que même quand c'est l'humanité qui ressort chez Jésus, il reste quand même Dieu. Et on ne le perd pas de vue. Même s'il a vécu comme un homme parce qu'il a mis de côté tous ses attributs divins. Et il a vécu comme un homme parfait, mais une fois qu'il recevait par exemple quelque chose de Dieu, c'était dans sa nature divine. On a du mal à saisir là, l'incarnation et Jésus n'est pas mi-homme et mi-Dieu, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais nous on a du mal à ce niveau-là et forcément ça fait de Jésus un modèle sûr, mais dans un certain sens, un modèle inapplicable. En plus, il n'y avait point de péché en lui, alors que nous, on a été sauvés par grâce, mais le péché reste par là. Il est là dans les pensées, il n'en faut pas beaucoup pour que ça dérape vite. Donc dans un sens, Jésus nous paraît inapplicable. Pourtant, Jésus le sait, et il se propose d'être comme un modèle. Mais ça nous amène, par exemple, il y a ce livre qui a été écrit, « Que ferait Jésus à ma place ?» Ça nous place des fois devant cette limite. Parce que Jésus est un modèle, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment me mettre complètement à la place de Jésus ? Jésus, quatrième réflexion, et là j'avance un petit peu, Jésus est un modèle à imiter dans au moins quatre domaines. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Jésus nous invite à l'imiter dans sa relation avec le Père. Dans Luc chapitre 11, verset 1er, il est écrit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » Luc nous donne ici une version courte du Notre Père. Parce qu'il ne veut pas mettre le projecteur sur ce que Jésus a enseigné, comment prier. Mais il veut mettre le projecteur sur le fait qu'un jour les disciples, ils ont vu Jésus prier. Ils l'ont entendu, ça devait être quelque chose de l'entendre. Ça devait tout de suite, ça devait créer une atmosphère de la présence de Dieu. Et ils ont envie de vivre la même chose. Et la Bible nous montre que ça, c'est vraiment l'objectif du Seigneur. Et on peut prendre exemple sur Jésus et Dieu a fait de nous des fils de Dieu. Même si Jésus, lui, est le fils unique de Dieu et il l'est par nature, nous, on l'est par adoption, mais on a droit à la même relation. Et on peut prendre exemple sur Jésus pour vivre cela et pour rentrer. Jésus a choqué son monde quand il appelait Dieu son Père. Et il a choqué encore plus en nous disant qu'on peut aussi l'appeler ainsi. S'approcher de lui. Jésus nous a montré avec le Père une relation, une communion. On peut vivre dans sa présence. Jésus nous a montré une relation de dépendance avec le Père. Jésus nous a enseigné une relation de soumission. Je pense à ce passage quand Jésus dit, au moment de son baptême, où justement il n'était pas nécessaire que Jésus se prenne le baptême de repentance, il était sans péché. Mais il dira, il est convenable que nous fassions ce qui est juste. On voit bien que Jésus ici est vraiment dans le sens d'être exemplaire, de montrer la voie pour se soumettre au Père. Jésus est à imiter aussi dans sa relation avec les gens. Je ne sais pas comment vous vous comportez avec les autres. Il y en a qui ont des caractères des fois un peu durs. Enfin, on ne va pas faire l'étalage de tous les caractères possibles. Mais notre relation avec les autres, on a aussi le modèle, c'est Jésus. Alors là aussi, ce n'est pas toujours évident. On sait que Jésus a des fois des réactions, mais Jésus, il nous paraît inaccessible des fois. Il aime ce qui n'est pas aimable. Il pardonne ce qui n'est pas pardonnable. Et puis des fois, il rentre dedans aussi. Parce que je n'aurais pas voulu être à côté quand il rentre contre les pharisiens. Quand il met Jésus, il combine à la fois l'amour et la vérité. Nous, on a bien du mal à combiner tout ça. Mais Jésus est pourtant notre modèle dans sa relation avec les autres. Jésus n'a-t-il pas dit, même si c'est plutôt dit à des chrétiens, mais on retrouve cette expression « comme Christ ». Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Même si on est plus sur des relations fraternelles là. Que les uns les autres, ça nous ramène toujours sur la dimension fraternelle. Quand il est dit « accueillez-vous comme Christ vous a accueilli ». Aimez-vous, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. On voit bien que Jésus se pose en exemple et dit « regardez ce que j'ai fait, faites pareil ». Dans les relations avec les gens, Jésus nous sert de modèle. Jésus est à imiter aussi dans son acceptation de la souffrance pour Dieu. Jésus ne cherche pas à souffrir, il n'est pas ascète. Il ne prenait pas plaisir à la souffrance, mais quand c'est le moment, quand y échapper devient une sorte de compromis, Jésus accepte de souffrir pour la cause de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, même dans deux textes que nous avons lus, les questions de souffrir, et notamment dans le texte de Pierre, celui qui souffre comme chrétien. Ça veut dire quoi souffrir comme chrétien? Ça veut dire parce que je porte le nom de Jésus-Christ. Ça déclenche des hostilités. Si vous portez certains noms en consonance étrangère, vous allez des fois vous faire railler, vous faire mépriser. Si vous avez un nom qui n'est pas prononçable, il y en a qui vont sourire. Le fait de porter le nom de Jésus-Christ, ça déclenche des hostilités. Ça déclenche des moqueries. Ça déclenche des fois plus que ça dans certains pays. Et bon, on l'accepte. Et on prend exemple sur Jésus-Christ. Bien sûr, la souffrance, là aussi, a une limite. Jésus a souffert pour que nous n'ayons pas à souffrir. Il a porté nos péchés. Mais la Bible nous dit de porter notre croix. Et porter sa croix, c'est pas avoir un rhume. Porter sa croix, c'est pas... Porter sa croix, c'est accepter les souffrances inhérentes à la foi en Jésus-Christ. Et puis, Jésus est à imiter dans son caractère, bien évidemment. Je vous ai montré un exemple. Jésus leur a montré quoi? Ce n'est pas le lavement des pieds, j'insiste. Hein. Ce n'est pas le lavement des pieds. Aujourd'hui, on a les pieds propres, enfin, je pense. C'est pas là, ça serait aucun sens de se laver les pieds. Mais Jésus leur a montré un exemple d'humilité, d'amour. Il nous a dit que Jésus mit le comble à son amour. Un exemple d'abaissement. Un exemple de don de soi-même. Un exemple d'intégrité, de franchise. Et ça, c'est le caractère que nous voulons manifester. Ce caractère-là, c'est ça, dans ce sens-là, que nous sommes invités à ressembler à Jésus-Christ. Je citais tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs et ceux de Jésus-Christ. » Mais c'est dans cette attitude à faire tout pour la gloire de Dieu, cette disposition de cœur-là. C'est dans ce sens-là que nous voulons le prendre comme modèle pour devenir semblable à lui, parce que c'est là le but. On le prend. Et n'est-ce pas le but de Dieu ou l'un des objectifs de Dieu? Une fois qu'il nous a sauvés, le but, c'est que nous devenions semblables à lui. Et puis une cinquième réflexion et dernière réflexion. Jésus est un modèle qui demande de l'attention. Dans Hébreux chapitre 12, il est question de fixer les regards. Ça nous a été aussi rappelé dans le don spirituel de ce matin. Dans Philippiens chapitre 3, verset 17, c'est Paul qui se pose en exemple et il dit « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en lui. » Portez les regards, fixez. Un modèle demande de l'attention. Quand vous dessinez à partir d'un modèle où vous peignez, vous allez le considérer sous tous les angles. Vous allez le regarder attentivement. Vous allez regarder peut-être plus le modèle que ce que vous êtes en train de faire. Jusqu'à Et c'est la même chose, ça demande pareil. Quatre évangiles, ça veut dire que Jésus demande de l'attention. Ça demande qu'il faut s'arrêter sur la personne de Jésus, le considérer, se poser cette question, que ferait Jésus à ma place? Comment il réagirait? Jésus a vécu suffisamment longtemps pour que, et on a suffisamment de textes dans l'Écriture pour qu'on puisse le prendre comme modèle. Je termine simplement C'est peut-être moins vrai maintenant, mais il y a quelques années, on reconnaît souvent un pasteur. On reconnaissait son formateur quand il prêchait ou quand il parlait. Il y a quelques années, un pasteur avait téléphoné et c'était moi qui avais répondu. « Oh, Christian !» Il me prenait pour mon formateur. « Non, c'est pas Christian, c'est Joël. »« Ah, mais t'as la même voix !» Tellement, je passais avec mon formateur, finalement, il me communiquait quelque chose. Nous, on veut, à un moment donné, on veut faire transparaître Jésus. À force de regarder Jésus, à force de l'avoir pris comme modèle, on va le voir. Et là, je vous cite un texte pour terminer, qu'on trouve dans le livre des Actes, au chapitre 4. Quand il nous est dit, quand ils virent les disciples, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Jésus, on ne le voyait pas, mais ils l'ont vu au travers d'eux. Parce qu'ils avaient tellement considéré le modèle qu'il lui était devenu semblable. Jésus respirait au travers d'eux. Jésus était visible au travers d'eux. Voilà pourquoi nous voulons prendre Jésus comme modèle, pour finalement le refléter. On a chanté aussi ce matin, nous voulons refléter ta gloire. On veut manifester Jésus. Que le Seigneur nous aide. Prenons les bons modèles. De toute façon, on a tous des modèles. Et si vous ne pensez pas en avoir, c'est que vous avez ceux qui ne sont pas bons. Voilà. Et il faut choisir le bon. Il s'appelle Jésus-Christ. Fixez les regards sur lui. Que le Seigneur nous aide. Voulons, Seigneur, te bénir et te louer parce que tu es le divin. Seigneur, je te prie d'ouvrir leur cœur et qu'ils puissent fixer les regards sur Jésus pour comprendre ce qui s'est passé à la croix et que sur la croix, l'amour de Dieu a été déployé. La justice de Dieu a été satisfaite et le péché peut être enlevé pour celui qui vient à toi. Je prie pour que quelqu'un ce matin saisisse la grâce de Dieu. Ça peut être un enfant, un ado, un jeune. Mais je prie pour que quelqu'un découvre Jésus le Sauveur ce matin. Je priais, Seigneur, pour tous, pour qu'on puisse vraiment avoir les yeux calés sur, fixés sur le modèle, Jésus. Seigneur, on veut tellement fixer les regards sur toi qu'on voudrait réagir comme toi, penser comme toi. Rêver comme toi, si c'est possible. Seigneur, on voudrait vraiment te ressembler. Aide-nous à fixer les regards sur toi. T'es le meilleur des modèles. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Jésus.